déjà mort, mort, déjà mort, mort, déjà mort hier. Je suis mort, déjà mort.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, c'est Idée Noire qui est de retour, donc après ces vacances bien méritées pour tous et toutes. Et c'est l'émission donc de l'Union communiste libertaire. On vous tient pendant une heure et on vous dit à tout de suite. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. On espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Nous, c'est le retour aussi pour nous, comme pour tout le monde. C'est l'émission donc Idée Noire, l'émission de l'Union communiste libertaire. Et pour vous dire que la plume noire, elle est toujours là, au 8 rue Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Elle rouvrira ses portes mercredi prochain. Voilà, si vous voulez passer, il n'y a pas de problème. Les portes seront grandes ouvertes aujourd'hui, on peut dire, parce que les portes sont grandes ouvertes, effectivement, aujourd'hui, de la plume noire. Et on vous dit donc à bientôt. Et on va commencer donc cette émission. Alors, les heures d'ouverture, oui, il faudrait peut-être que je les rappelle. Il ne faut pas oublier les automatismes quand même. C'est le mercredi, donc, de 17h à 19h. Et tous les samedis, de 15h à 19h, au 8 rue Diderot, à Lyon, dans le 1er arrondissement. C'est tout en haut des pentes. Hein. C'est pas compliqué pour y aller.
Voilà, l'occasion de venir rencontrer les militantes et les militants de l'Union communiste libertaire, et puis de discuter un peu de l'actualité sociale et politique, tout en faisant, si on le souhaite, le plein de revues, de bouquins, de tracts et autres à emprunter ou à acheter, puisque les rayonnages de la librairie La Plume Noire sont bien achelonnés en cette rentrée.
En effet.
Donc, faut pas hésiter. Bah oui, Daniel, c'est la reprise. On est le 1er septembre, on n'est pas en retard. C'est reparti pour un an d'analyse, de réflexion et de critique sociale et libertaire sur ce 102.2 de Radio Canu, tous les mercredis soirs de 20h à 21h. Bien évidemment, l'actualité internationale, on en parlera au cours de cet événement, c'est les événements d'Afghanistan. On ne pourra pas faire l'impasse dessus, on en parlera, on en dira deux mots au cours de cette émission. Mais avant tout, pour commencer, on voulait quand même revenir sur l'actualité sociale et politique qui a agité le pays durant cet été, autour bien évidemment de la question, encore une fois, de la pandémie liée à la Covid virus et à la question du fameux mise en place du pass sanitaire, puisque le gouvernement a dégainé une nouvelle mesure répressive avec ce fameux pass sanitaire. sanitaire au cours de cet été. En effet, hein, les annonces d'Emmanuel Macron, du président de la République, le 12 juillet dernier sur le pass sanitaire et les sanctions qui y sont liées, ont provoqué de vives protestations de rue. Elles ont provoqué de vives protestations de rue, et derrière les annonces de Macron sur la situation sanitaire, on a vu en fait un large mouvement de contestation contre la mise en place du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire se mettre en place et émerger de façon assez surprenante, parce que c'est vrai que la trêve estivale est peu propice en général aux mobilisations sociales, et là pourtant ça a été des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui sont un peu à l'image des gilets jaunes descendus dans les rues les samedis après-midi de ce mois de juillet et du mois d'août. Phénomène assez nouveau pour être noté. Alors, ces mobilisations sont encore quelque part une preuve de l'inaptitude du gouvernement à gérer la pandémie et ses conséquences de manière cohérente et de manière sereine, puisqu'on se rend compte que plus d'un an après le premier confinement, aucune leçon ne semble finalement avoir été tirée. On pourrait même dire que c'est pire encore, que les seules réponses qui ont été envisagées par le gouvernement sont la répression et tout faire pour qu'un soi-disant retour à la normale s'instaure le plus rapidement possible, quitte à vouloir, on pourrait dire, tenter de faire rentrer la réalité dans leur théorie à grands coups de pied dans les fesses. Les choses sont malheureusement pas aussi simples, puisque ce retour à marche forcée s'est fait encore une fois sans prendre en compte la dangerosité d'une quatrième vague que nous risquons d'affronter dans les jours, les semaines à venir, voire on pourrait se demander si depuis quelque temps on n'y est pas déjà dedans. Alors le pass sanitaire est apparu comme une nouvelle arme de l'arsenal liberticide qui a été mis en place par l'État. On sait que les mesures qui ont été décrétées depuis le 12 juillet dernier, elles ont touché une fois de plus en priorité les personnes les plus précaires, les habitants des quartiers populaires, les personnes sans papier ou sans domicile fixe, pour lesquels l'accès à la vaccination elle est déjà difficile, et que tout ça risque pas de s'améliorer avec les différentes pénuries. Ce qui veut dire que l'État fait porter quelque part la responsabilité aux salariés en les menaçant aussi de licenciement dans les secteurs où ils sont concernés par la vaccination obligatoire. Et les mesures contraignantes prévues en fait sont un plan sain qui sont offerts à la bourgeoisie, qui va avoir les mains libres quelque part pour gérer un peu ça comme elle l'entend. Elles lui permettent en effet de maintenir toujours plus de pression sur les travailleurs et les travailleuses qui n'auront donc pas la possibilité d'être vaccinés avant la mise en place de ce pass et son obligation, qui est rentrée pour certaines professions de façon obligatoire depuis aujourd'hui. Et que du coup, les risques de licenciement et d'augmentation de la précarité, ils sont réels et ils sont dramatiques. Alors que la crise économique traversée ne fait que s'accentuer avec le temps. Crise économique, bien évidemment, encore une fois, pour les salariés et non pas pour les actionnaires et les patrons, puisqu'on a appris cet été que les dividendes n'avaient jamais été aussi florissants depuis ce début d'année que depuis le précédent grand confinement, et que tout allait mieux pour le meilleur des mondes, pour la bourgeoisie et pour les actionnaires.
Notamment pour le CAC 40 qui a fait des monstruosités,
qui a fait
bénéfices.
Des booms et des pics énormes au cours de ce printemps, en effet, et que si crise il y a, on sait à qui on veut faire payer la crise, c'est bien évidemment aux travailleurs et aux travailleuses. Alors, au-delà de leur aspect liberticide, les mesures contraignantes sont aussi, on pourrait dire, contre-productives sur le court terme, parce qu'elles font que renforcer la défiance de la population vis-à-vis du vaccin, et que la confiance, elle est déjà largement mise à mal par l'enchaînement des injonctions contradictoires et des mesures absurdes qui ont été mises en place, on pourrait dire, depuis un an et demi. Ce dont, en fait, on a réellement besoin, c'est pas de mesures répressives et brutales, mais c'est bien une campagne de vaccination généralisée, accompagnée de mesures comme des jours de congé, par exemple, octroyés aux salariés pour permettre la vaccination dans un climat de confiance et puis dans un climat de transparence. Parce qu'on le répétera, on peut que le répéter, s'il est important de généraliser la vaccination à tous et à toutes, c'est parce que pour l'heure actuelle, il faut quand même reconnaître quel est le moyen le plus efficace et actuellement le plus disponible pour endiguer la pandémie. pour réduire drastiquement le nombre de morts et de mortes potentielles face à la prolifération du variant Delta notamment, comme on peut le voir dans la majorité des pays vaccinés. On sait qu'aujourd'hui, le fait de ne pas être vacciné fait qu'on peut être près de 30 fois plus sujet à être contaminé et que plus de 80% des gens qui se trouvent en réanimation sont des gens justement qui ne sont pas vaccinés. Ça, il faut le rappeler, c'est une réalité qui est incontournable et qui nécessite qu'il y ait quand même une politique de santé publique qui puisse être accessible à toutes et à tous et pour toutes et tous. Mais ça, en fait, c'est envisageable qu'avec une levée immédiate des brevets, avec la réquisition et la socialisation du système de santé dans sa globalité, et puis bien sûr des outils de production des vaccins. Alors, au vu de tous ces éléments, bah, c'est vrai qu'il peut, et devant tout cette de toutes ces choses troubles et ces mesures liberticides et brutales, et bah, quelque part, il peut apparaître légitime à une partie de la population de se mobiliser contre un agenda mortifère et toujours plus oppressif de la part du gouvernement, comme ça s'est déroulé cet été. Et en tant que militants révolutionnaires et militants libertaires, on ne peut pas passer sous silence et ignorer ces mobilisations qui sont exprimées cet été et qui sont aussi le lieu, malheureusement, d'expression d'une partie de l'extrême droite, de mouvements anti-science, anti-vaccins et globalement de mouvements conspirationnistes avec lesquels on n'a strictement rien à voir et dont on ne partage aucune stratégie. C'est pour ça que dans toutes ces mobilisations, eh ben on ne peut que condamner fermement les références qui sont faites par exemple à la Shoah et les parallèles antisémites qui ont été visibles dans ces manifestations, comme ça a été le cas notamment dans l'est de la France avec une enseignante qui avait brandi une pancarte clairement aux références antisémites au cours d'une manifestation. Comme de plus, nous condamnons la qualification d'apartheid social qui concerne ce pass sanitaire et on considère comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire comme l'expression d'une porosité dangereuse, on pourrait dire, entre l'extrême droite et ce mouvement qui a eu lieu. Parce qu'en réalité, ce sont les capitalistes qui privent la majorité du monde de l'accès à cet outil essentiel qu'est le vaccin, dans la perspective d'endiguer cette pandémie à l'échelle de la planète. Et il en va de même pour la reprise des slogans féministes qui sont repris à tort, tel « mon corps égale mon choix », qu'on a vu proliférer et être détourné dans ces manifestations, ou encore des références qui sont faites aux violences sexuelles et aux viols mis en parallèle avec la vaccination. C'est abject, c'est des choses qui ne sont pas comparables, qui ne sont pas sur le même plan et qui sont une pure instrumentalisation et qui participent à la confusion des idées et au confucianisme qui est justement l'arme de la manipulation des conspirationnistes et autres. Nous, on le répétera jamais assez, pour nous, la vaccination n'est pas l'affaire d'un choix individuel. C'est une vision libérale de présenter les choses de cette façon-là. C'est pas les individus seuls face au monde et face à la société. La vaccination, c'est une nécessité collective. C'est celle de la volonté de se protéger, mais aussi de protéger les autres, notamment les personnes ne pouvant pas se faire vacciner. Et nous ne souscrivons en aucun cas les visions validistes qui minimisent l'impact et les morts de ce virus. Il y a des morts, il y a des vies qui sont en jeu dans cette histoire et c'est essentiel de le rappeler. Alors si nous entendons bien les mobilisations qui ont eu lieu cet été, ben nous pensons qu'il est néanmoins essentiel et vital de nous mobiliser au-delà de la défense des libertés individuelles, qu'on ne peut pas réduire la question de la vaccination à cette problématique-là, qu'il s'agit en fait dès aujourd'hui de construire une riposte qui soit plus large, qui soit contre l'autoritarisme de l'État, mais aussi contre les futures réformes prévues qui ne feront qu'accentuer les inégalités économiques. On peut penser aux réforme de l'assurance chômage, à la réforme des retraites, mais aussi aux réformes du système de santé et des moyens qui y sont attribués, et puis de construire collectivement un modèle de société qui permette de faire face efficacement et collectivement et solidairement à la situation sociale et sanitaire que nous traversons. C'est pour ça qu'il faut être clair. Les mesures court-termistes qui privilégient aujourd'hui la répression et l'autoritarisme, elles risquent qu'une chose, c'est de braquer dans une posture anti-vax irréductible une fraction de la population, ce qui n'est que méfiance ou hésitante, et c'est pas du tout pertinent, bien au contraire. Nous, on pense que pour être pertinent, il faut proposer une stratégie vaccinale qui doit être incitative et qui doit être fondée sur la réalité sociale, qui passe autour de quelques revendications très très claires. La première, c'est en effet d'être contre le pass sanitaire, parce qu'on l'a dit, c'est une mesure discriminatoire qui donne des armes au patronat pour faire du chantage sur le monde du travail, qu'il faut être néanmoins pour le renforcement de la campagne vaccinale avec des moyens humains et matériels, notamment dans des départements d'outre-mer comme les Antilles ou la Guyane ou la Réunion dans le Pacifique. Qu'il faut être aussi pour une incitation concrète à se faire vacciner. Et ça, ça passe, on l'a dit, par la mise en place de jours de congé pour la vaccination des salariés, y compris pour celle de leurs enfants, par une incitation monétaire équivalente pour les privés d'emploi, les sans-logis par exemple, par une garantie de non-arrestation pour les personnes sans papier qui se présenteraient dans les centres de vaccination. C'est des mesures qui sont simples, qui ont un coût minime en comparaison des fonds publics qui sont engloutis par exemple dans l'aide aux entreprises, mais qui pourraient permettre de rétablir une confiance très claire dans cette politique de vaccination. On l'a dit, on est pour l'abrogation des brevets sur les vaccins anti-Covid, parce que la science doit, les produits de la science doivent servir à toutes et tous, et que dans cette crise sanitaire et sociale, il est scandaleux que certains s'accaparent la propriété privée de résultats qui pourraient permettre à la santé collective et à la santé publique. Qu'il faut être pour la socialisation de l'industrie pharmaceutique, parce que là aussi, c'est pas tolérable que ce domaine, qui est un domaine stratégique de la santé collective, obéisse à des recherches de profit, que là encore, une fois de plus, on peut le dire, nos vies valent plus que leurs profits, et ça, on peut le rappeler en ce qui concerne la santé. Et enfin, bien évidemment, tout ça, ça ne peut prendre du sens et de la clarté que si ça s'inscrit dans la mise en place d'un service public de la santé unifié, un service public de la santé unifié qui soit déployé sur l'ensemble des territoires, qui soit renforcé par la socialisation des cliniques privées, qui soit financé à la hauteur des enjeux avec une embauche massive et urgente de personnel qui est une condition pour réellement pouvoir répondre à la situation sociale et sanitaire à laquelle on est confronté. On l'a dit, une quatrième vague est en cours et si on continue ainsi, ce sera peut-être pas la dernière et on verra pas le bout du tunnel pour autant. Pourtant, on sait qu'on a tous besoin d'en sortir, que ça soit individuellement collectivement, que ça soit pour notre bien-être ou pour tout simplement notre question de santé mentale et sociale, et que du fait de la déstabilisation aujourd'hui des écosystèmes et de la biodiversité, nous risquons malheureusement de retrouver régulièrement des crises épidémiques de plus en plus violentes et fréquentes. Et pour nous, militants révolutionnaires et libertaires, on sait très bien qu'il n'existe pas de solution miracle, qu'il y a tout de même une certitude, que cette certitude, c'est que nous devons sortir du capitalisme de toute urgence, parce que c'est bien le capitalisme, ces logiques mortifères et ces logiques de profit qui ont produit cette situation dans laquelle on est déjà depuis quelque temps, dans laquelle on étouffe et dont on aimerait bien enfin pouvoir jeter les masques et pouvoir vivre épanoui pleinement dans l'égalité, dans la sécurité sociale et sanitaire. C'est tout ce à quoi on aspire. Et c'est par ces mots qu'on voulait commencer cette émission de reprise d'Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire sur ce 102.2 de Radio Canu. Et comme le disait le vieux Lyon, le vieux Léo, ni Dieu ni maître, n'est-ce pas, Daniel ?
En effet, et c'est parti.
Une cigarette sans cravate, qu'on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur. De ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un ballon vers les étoiles, et cette rose sans pétale qui tombe froide sur la table, cet avocat à la serviette, ce taupe qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. Thank you. et pour meubler le sacrifice avec sa main de service. Cette pousse dure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Allez, 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, et ben c'est Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. C'est l'émission de reprise après cette trêve estivale en ce 1er septembre. Et c'est reparti. C'est reparti pour un an de critique, d'analyse sociale et libertaire. Tous les mercredis soirs, 20h, 21h, Idées Noires. Et puis on vous l'a dit, avant de passer à une page internationale, bien évidemment centrée sur la question afghane, ben il est peut-être temps aussi de retrouver nos traditionnelles rubriques de notre ami Daniel sur les luttes d'ici et d'ailleurs, parce que on a beau parler de trêve estivale, ben y en a des choses qui se sont passées cet été.
Tout à fait, tout à fait. Juste pour dire un petit en aparté que ben, il aurait 105 ans hein, cette année, Léo Ferré. Et il faut dire aussi qu'il y en a un autre centenaire, c'est Brassens quand même aussi, qui aurait 100 ans cette année. Serait-il encore parmi nous? Je sais pas, mais enfin, bon, faut y penser un petit peu comme ça.
Allez, ben,
de temps en temps, oui. Alors, donc,
rendez-vous pour ces... est pris, on passera un morceau de Brassens d'ici peu. Alors,
pour revenir donc à notre émission et ses luttes sociales, oui, il y en a eu, évidemment. J'en ai tout un temps là. J'ai pas chômé hein, pendant ces trois mois là. Enfin, du moins juillet et août. Il y avait juin aussi, mais enfin bon, on a été un petit peu attardé dans nos émissions. Bref, pour en venir aux brèves sociales, aux luttes sociales les plus récentes, eh ben je vais attaquer sur celle de mois d'août. Ça a été un petit peu difficile. Je sais pas ce qu'ils ont fait nos journaleux là. C'est un peu compliqué à trouver. Mais enfin bon, ben, j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc on va démarrer fin juillet. C'était le 31. Avec une colère des personnels soignants et soignantes de HEH et plus exactement des hospices civils de Lyon. Il y avait 300 personnes à Aériau, l'hôpital Aériau, à l'appel de Sud et de FO, des syndicats Sud et FO. Et ils dénonçaient donc les fermetures de lits, ce qu'ils appellent les fermetures de lits, moi que je dis plutôt ce sont des suppressions de lits, qui persistent donc comme aussi la disparition des postes de soignance et de soignantes. L'embauche et les salaires comme solution, évidemment, c'était le cri que l'on entendait, les cris qu'on entendait. Donc les CDD sont sur un bateau qui tangue, effectivement. Les personnels qui sont en CDD guettent aussi les suppressions de salaires pour les fortes têtes. Hein, on en a parlé, donc ceux qui veulent pas se faire soigner, donc se faire vacciner du moins, Covid oblige. Alors acharnement, harcèlement et ce vide entre les vaccinés et les non vaccinés, la colère évidente dans le monde des travailleurs, des travailleuses de la santé, aujourd'hui avec ce diktat macronien de la vaccination à tout craint, fait réagir donc les personnels de la santé publique et le privé dans tout ça, bah, probablement aussi un petit peu, à eux et à elles que les directions des hôpitaux et cliniques poussaient à venir au chevet des malades sans être vaccinés, sans se soucier de leur santé. Après les soins administrés aux patients et patientes, on peut dire que ça met les abeilles. Une confirmation maintenant, c'est d'une fermeture d'usine à Dupingem, c'est dans le Bas-Rhin. Unilever, le groupe multifonction, comme je les appelle, annonce la fermeture du centre de production de la marque Knorr dans le potage, donc cette marque, et cela fin septembre. Depuis des mois, les salariés se battaient. Grève, manifestation, la baisse des ventes a eu le dessus. Argument bien patronal. Eux, les patrons, ne boiront pas le bouillon. Les travailleurs, eux et elles, iront à la soupe populaire un jour ou l'autre. Faites péter le champ pour les patrons. Alors, telle aussi la famille Schaeffer à Calais, dans le Pas-de-Calais, donc avec cette société Drive System, qui font dans la chaîne de distribution tout azimut, le groupe vendra à coup sûr à un fonds de placement 560 salariés, c'est trop pour eux, sous-traitants, intérimaires aussi, allez hop, on balaye, une hécatombe qui se prépare, pas pour la famille Schaeffer, qui a un pactole grassouillet en progression, multiplié par 20 depuis 10 ans, fortune estimée à 10 milliards d'euros et le chiffre d'affaires donc de 2020, c'est 40 961 000 euros. C'était le moment de brader. Le 2 août, c'était à Boulogne-sur-Mer, toujours dans le Pas-de-Calais, chez Labéry Fine Food France. C'est anciennement Delpierre, tout simplement, qui fait dans la conserve de poisson. Un licenciement ici abusif a déclenché une grève. 25 participants grévistes pour soutenir un responsable de maintenance. Occupation d'un rond-point. Nous ne sommes pas coutumiers des grèves. Là, je cite qui a déclaré la déléguée syndicale de CFDT. On la croit sur parole, évidemment. L'action a obtenu quand même gain de cause au bout du compte. Alors, idem à Hervaux, dans les Deux-Sèvres, avec une usine de ciment, Calcia, c'est son nom. C'est une filiale du deuxième groupe mondial après Lafarge. Et c'était le 4 août avec une grève. La direction accuse de manquement à la sécurité un travailleur, un de ses salariés. Une aubaine, c'est une question. En effet, 55 emplois sont menacés de disparaître. 129 personnes sont employées dans cette société. Une restructuration se cache, évidemment, puisque la CGT les salariés dénoncent cette trahison de la direction, les défauts de maintenance, et dénoncent aussi les défauts de maintenance, les conditions de travail, les risques encourus. Les salariés, eux, payent cash pour la direction. Il n'y a qu'à laisser prendre le béton. Sous la chape du silence. À Gardanne, maintenant, dans les Bouches-du-Rhône, c'est la société Gazelle Énergie, qui est une société qui gère une centrale de biomasse. C'était le 6 août, après une mise en route d'une tranche, biomasse. Celle-ci se retrouve à l'arrêt. Alors, c'est une décision de grève, évidemment, qui a mis cette tranche de biomasse à l'arrêt. La CGT est dans le coup, qui dénonce des tentatives d'intimidation et de chantage de la direction et refuse donc le plan social lié à l'arrêt de la centrale à charbon, validé par le tribunal administratif. 98 postes disparaîtront sur 150 existants. La CGT, les salariés maintiennent une pression à la fois sur la direction et sur le gouvernement pour le maintien d'une centrale au charbon avec rejet largement diminué. Alors j'avais été un peu surpris de ça, mais j'avais fait un petit truc là-dessus d'ailleurs parce que ça dure depuis un moment cette histoire. Alors paraît-il qu'il y a du charbon qui ne pollue pas. Reste à savoir ce que deviendra la suite. À Rennes aussi, c'est une solidarité encore une fois ici, cette fois pour un professeur d'histoire et géo du lycée Jean Massé. Le recteur d'Académie lui reproche des insuffisances professionnelles avec une mutation à la clé. Alors Quenini, on dit en chœur ses collègues, suivi d'une mobilisation pour dénoncer le prétexte qui était complètement ridicule. En fait, cela cachait une répression syndicale, on peut dire, sur précisément une action syndicale, l'organisation d'une réunion syndicale dont le sujet était l'expulsion d'une élève sans papier. Une centaine de personnes, de collègues, élèves, parents, militants et militantes ont accompagné donc le délinquant, entre guillemets, dans sa lutte. À Enghien-Bitten, alors c'est dans le Bas-Rhin, hein, un nom comme ça, ça peut être que dans l'Est, donc dans le Bas-Rhin, bah c'est une grève fin août de 90 travailleurs de la société Aptis, qui est une filiale de Alstom. Après 4 ans de vie, les actionnaires ont dit assez, enfin... Ils veulent dire pas assez de profit. Aptis, c'est 141 salariés. Des heures supplémentaires, en veux-tu, en voilà. Les samedis travaillés pour régaler donc ces messieurs dames de la finance bien grasse. 90 grévistes dénoncent donc le plan de suppression d'emplois. C'est une société qui a été créée en 2017. Bah, la vie est courte, on peut le dire, entre les mâchoires des requins. À Cadillac, c'est en Gironde. À l'hôpital de la ville, mobilisation à l'appel de la CGT. Alors le but, bah, c'est de dénoncer, encore une fois, on dénonce beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ben, c'est dénoncer ici la situation de l'établissement psy. Le pass sanitaire est dans le collimateur aussi, mais pas que. La pression sur les personnels de santé, le chantage sur les soignantes et soignants, là, à propos de vaccination ou pas. La division en place, le risque de clash donc, dans les prochaines luttes. Plusieurs dizaines de salariés ont participé à cette mobilisation de fin août et de début septembre. Et pour terminer donc cette première page, je vais commencer par ces luttes en juillet et sans conteste, il y en a une qui a quand même tenu le pavé, c'est à Paris et c'était donc le 2 juillet avec le groupe ADP, Aéroport de Paris, qui gère donc les aéroports de Orly et de Roissy, avec un appel à la grève de l'intersyndicale UNSA, CGT, CGC, contre le plan d'adaptation des contrats de travail, c'est-à-dire qu'on appelle le pacte PACT, qui, ce plan, supprimera quelques avantages, les primes, etc. Chantage donc de la direction, parce que si refus des salariés, bah, ceux-ci s'exposent à un licenciement. Lors des négociations, 400 manifestants et manifestantes à Roissy avec jet de confettis, ça a bien changé quand même, maintenant jet des confettis, hein, ça fait moins mal, et blocage des accès passagers. Une pancarte indiquait le salaire de Augustin Romanet, le PDG de ADP, 450 000 euros par an, c'est pas mal. Ça vaut bien une seconde grève le 7 juillet, 57% de grévistes et une tension à la mesure du désastre. Ce sont joints aussi par la suite le syndicat EFO et la CFDT. Rassemblement le 9 juillet également à Orly avec décision prise collectivement par les grévistes, puis le 10 juillet à Roissy pour établir le bon compte. L'intersyndicale a signé en décembre, pourtant décembre 2020, un accord de rupture conventionnelle collective prévoyant le départ de 1150 salariés en 2021. Et puis il y a eu des suites aussi, donc je le disais, le 9, le 10, le 11 juillet, avec toujours des grèves et des manifestations des salariés de ADP, donc Aéroport de Paris. Les personnels au sol aussi étaient Orly, enfin c'est surtout des personnels au sol, hein, c'est pas les pilotes. Hein. Orly, Roissy, donc à Orly et Roissy, mouvement décrit par le PDG lui-même comme légitime, et oui, rendez-vous compte, eh ben le gentil Augustin, c'est son prénom, hein, le gentil Augustin Romanet, faut pas s'extasier sur cette déclaration. Les baisses de salaire, et autres joyeusetés sont pour Augustin la manière de retrouver le modèle social extraordinaire, entre guillemets, c'est lui qui l'a employé, je le cite, d'ADP. Le but, c'est de compenser les pertes du au Covid, en principe, du chiffre d'affaires, 80%. Et il y avait trois solutions proposées par ce monsieur. Ben, c'était un effort financier aux contribuables, aux passagers aussi, un effort financier, donc le prix des billets évidemment augmenté, et au personnel du groupe, c'est-à-dire ben, les mêmes cochons payants, quoi, tout bonnement. Alors à noter aussi que, bon, je l'ai dit, 57% de grévistes selon la CGT, intervention aussi de la flicaille pour empêcher l'occupation des halls et des terminaux et s'opposer aussi au blocage. La pression syndicale devrait donc se maintenir en septembre, donc on n'a pas fini d'en parler à ce micro. J'essaierai de faire des grosses suites à ça. Voilà pour ce qui est de cette première page de lutte.
Allez, ben on te retrouvera après la prochaine pause musicale pour la suite, pour une seconde page de lutte. Mais on l'a annoncé au début de cette émission Idées Noires, cette émission de l'UCL, qu'inévitablement on allait faire une page internationale en disant quelques mots de la situation en Afghanistan. Parce que bien sûr l'écrasement des forces afghanes et la reprise de Kaboul par les talibans le 15 août dernier, c'est accompagné d'images de massacres et d'actes de désespoir qui nous ont certainement à toutes et à tous soulevé le cœur. On a vu des vidéos de personnes prêtes à mourir pour tenter de fuir leur pays. On a vu aussi des vidéos de tueries quand les habitants entendaient résister. Mais toutes des visions qui étaient particulièrement dramatiques. Mais ce qui était d'autant plus écœurant et donnant envie de vomir, c'est la façon dont, dans ce contexte humainement dramatique, le Macron et son gouvernement se sont mis à chasser à nouveau sur le terrain de l'extrême droite dans ce contexte-là et en ont profité en s'exprimant dans un premier temps quasiment uniquement sur les risques, pour reprendre leur terme, de flux migratoires irréguliers et pour en agiter le chiffon du risque de l'invasion de réfugiés. La position française, elle semble donc claire et scandaleuse. Il n'y aura pour les exilés qui parviendront à atteindre l'Europe que la politique de tri, de fichage, de suspicion et de maltraitance institutionnelle qui est menée jusqu'à aujourd'hui et ne peuvent pas s'attendre à un peu plus de solidarité. Alors on sait pourtant que cette politique, elle engendre, et on le voit à travers toutes les crises migratoires qu'il y a pu avoir, des campements de fortune, des brutalités policières, des traumatismes psychiques, et puis qu'elle ajoute à la violence de la guerre et de l'exil, celle de l'exclusion et du rejet à l'arrivée, avec des conséquences qui sont humainement dramatiques et qu'on ne peut que dénoncer en revendiquant pour notre part la solidarité avec tous les réfugiés. Cette position qui est menée aujourd'hui par l'État français, par la plupart des États européens, elle est également insoutenable parce que en fait elle vient parce qu'elle revient à occulter la responsabilité directe des États-Unis qui ont tenté pendant 20 ans de contrôler l'Afghanistan après y avoir mis les pieds suite aux attentats du 11 septembre 2001 et y avoir semé le chaos et le désastre. Mais responsabilité aussi de la France et de l'Union européenne et puis de l'OTAN au Moyen-Orient depuis plusieurs décennies qui, des guerres en Irak dans les années 90 à l'invasion de l'Afghanistan en 2001, ont, comme je le dis, transformé ces territoires en champ de bataille et en un chaos infernal dont les principales victimes sont les populations civiles. C'est bien ça le véritable problème, parce que c'est nier la détresse d'une population en fait qui n'a pas connu la paix depuis on pourrait dire près d'un demi-siècle et qui a vu au fil des conflits grandir les monstres du totalitarisme intégriste, et que les talibans qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui l'avaient déjà pris il y a quelques décennies, on le rappellera jamais, sont un des purs produits du chaos qui a été mené par le monde occidental et un pur produit des États-Unis qui, à l'époque encore de la guerre froide, ont entraîné, protégé des fanatiques, des extrémistes religieux, des bergers obscurantistes et abrutis par leur religion dans les montagnes, qui se sont fait moudjahidine et qu'on croyait être les amis du monde occidental dans la lutte contre le communisme. Le bon vieil adage, les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis, aurait bien mieux fait de s'appliquer. Malheureusement, c'est pas le cas. Tel Ben Laden qui a été un produit des États-Unis, aujourd'hui les talibans le sont aussi, et quelque part la planète et l'Afghanistan récoltent le chaos qui a été semé par cette superpuissance américaine qui s'est crue être la superpuissance à l'issue de la guerre froide. Alors plus que jamais, nous militants et militantes de l'Union communiste libertaire, on peut que appeler à ouvrir les frontières aux exilés afghans et afghanes et à toutes les personnes qui fuient les guerres et les conséquences du capitalisme sous toutes leurs formes, où que ce soit sur la planète. On ne cessera de revendiquer l'arrêt de l'application du règlement Dublin. On revendique une politique d'accueil et d'hospitalité réelle et nous opposons au cynisme des gouvernements capitalistes et impérialistes notre solidarité par tous les moyens qui sont possibles et qui sont en notre pouvoir, que ce soit les hébergements solidaires, l'aide juridique, les mobilisations de rue, les soutiens à l'auto-organisation des exilés, etc. etc. Et c'est pour ça qu'on tient à signaler que fin août, à Lyon, l'Union communiste libertaire de Lyon, en partenariat avec le MFPF, le Mouvement français pour le planning familial du Rhône, ont pris l'initiative d'organiser un premier rassemblement, place de la Comédie, pour justement affirmer haut et fort ces principes de solidarité universelle et pour réclamer l'accueil et la solidarité envers tous les réfugiés et notamment les premières victimes que sont les femmes, que sont les minorités sexuelles, que sont les intellectuels, les étudiants, les militants et militantes qui doivent être accueillis sans aucune restriction. Tant c'est là aussi une question de vie et de mort et une question de dignité pour nous qui se pose dans cette solidarité avec cette population afghane et ces catégories de personnes en priorité. Voilà ce qu'on voulait dire par rapport à ce drame qui se joue actuellement en Afghanistan, dont malheureusement on n'a pas fini de mesurer les conséquences et qui va certainement appeler à d'autres mobilisations dans les semaines qui arrivent. On va faire une nouvelle pause musicale sur cette émission Idées Noires, 102.2 de Radio Canut, justement en lien, tiens, avec l'actualité internationale, quelque chose de plus joyeux. Cet été, ça a aussi été la tentative du débarquement de l'EZLN, l'armée zapatiste de libération nationale en Europe, qui avait décidé de faire une grande tournée d'information pour commémorer la conquête du Nouveau Monde, mais à l'inverse. Quelques délégations ont pu arriver fin juin en Europe. Malheureusement, c'était près de 200 militants de l'EZLN qui devaient ensuite arriver au cours des mois de juillet et d'août pour entamer des campagnes de rencontres avec le milieu militant européen et progressiste. Bien évidemment, vous vous doutez bien que le gouvernement mexicain, comme le gouvernement français, puisque la plupart des arrivées devaient se faire à Paris ou à Madrid, ont pris prétexte de la crise sanitaire pour ne pas accorder les visas pour ces militants révolutionnaires zapatistes qui voulaient venir en Europe et les empêcher de venir créer des solidarités internationales. Certains ont quand même pu venir et puis on pourrait dire que tout ceci n'est que partie remise. L'EZLN existe toujours, le Chiapas est toujours un petit rayon de soleil quelque part en Amérique latine sur des pratiques sociales différentes et émancipatrices et qu'on peut que soutenir. On les accueillera à bras ouverts quand ils auront l'occasion de revenir, peut-être à Lyon, peut-être à la Plume Noire par exemple. Et en attendant, on voulait leur faire un petit clin d'œil avec les Yabasta qui nous chantent justement aux EZLN.
Surgit une mystérieuse armée zapatiste, soldat d'un tiers-monde oublié par le traité de libre-commerce.
Une mystérieuse guérilla se réclamant de Zapata surgit de l'ombre.
Sens de l'armée zapatiste de Libération Nationale ou EZLN.
passé. Oublie 80 ans de drame où on monte des milliers d'insurgés. Le Nord comme le Sud s'enflamme.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, c'était Leïa Basta qui nous chantait Eusé d'Hélène. Pour clore cette page internationale, et puis nous, pour la dernière ligne droite de cette émission de reprise, de cette émission de l'Union communiste libertaire, il est temps de retrouver notre deuxième page de lutte sociale dans un
oui,
premier temps.
Oui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'avais pas mal de luttes en juillet. Je vais vous en faire part pour quelques-unes, pour laisser un petit peu de temps à mon collègue, là, à mon camarade, pour terminer ce que lui a fait comme travail. C'est à Lyon, donc je vais commencer donc, à Lyon avec la Pardieu, gare Pardieu, avec une grève chez Itiremia, alors qui est une filiale de la grande société Samsic. Itiremia, je vais y arriver, prend en charge les personnes avec handicap. 15 personnes en CDI pour dénoncer les conditions de travail, les conditions lamentables aussi du planning, paye incomplète, paraît-il que ce sont des oublis. Oh. Ce 1er juillet, on a fait part à deux, excusez-moi du jeu de mots, à la Pardieu, à part à Dieu, bah oui, parce que c'était une journée nationale de grève avec une manifestation aussi de 150 cheminots dans la gare. À noter une pression au chantage à l'emploi. Donc de la part de la direction de Itiremia sur les salariés en CDD par cet encadrement. À Donge, dans la Loire-Atlantique, qui dit Donge dit Total. Total, le pétrolier, hein, bien sûr, sur la raffinerie de Donge sont employés des entreprises sous-traitantes pour son entretien. Entreprise qui emploie des sous-traitantes qui exploitent des travailleurs étrangers, des travailleurs roumains en l'occurrence, déjà sous-payés et qui se sont mis en grève avec la CGT qui les a aidés pour toucher au bout du compte leur salaire. L'entreprise qui les employait a soudainement vidé ses caisses. Une vingtaine de personnes, c'était au 24 juin, employées au terrassement sur le site donc de Donge par la société SIPA pour la société Kinetics Technologies pour elle Total. Voilà. C'est un chemin de fer, ce qu'on appelle. Hein. Non payé donc depuis mai, ces travailleurs roumains. Sans parler évidemment des conditions de travail et de vie sur le chantier. Alors Total, bon prince, a écrit à son sous-traitant en lui précisant de bien choisir les prestataires de, tenez-vous bien, de deuxième rang, voire même de troisième rang. Alors à Attichy, maintenant, c'est dans l'Oise, avec une entreprise, l'entreprise Panol, grève le 5 juillet, dès 5 heures du matin, négociation salariale proposée au mérite par la direction, bah voilà, pourquoi pas. Pour les représentants des travailleurs, bah c'est non, d'autant que la société d'équipement thermique a connu des problèmes d'encadrement, ce qui a mis en place une organisation autonome du travail pour la production, exige évidemment la reconnaissance. Le mouvement a été reconduit le 6 juillet. À Saint-Dié, dans les Vosges, ben c'était le 8 juillet, chez Gantois Industrie. La CGT, aux commandes d'une grève à l'usine même, avec la force de 70 manifestants, qui exigent une amélioration de l'ambiance de travail, une augmentation des salaires. Tout ça pour peser, évidemment, sur les négociations salariales de cette journée. Le 29 juin et pour 4 jours, donc on était presque en début juillet évidemment, les salariés de l'ADAPEI qui étaient en grève. Alors des banderoles explicatives sous le sigle de l'association d'aide aux personnes handicapées. Alors voilà, ADAPEI, ben ça devenait accompagnement dégradé, association polluée, employé infantilisé ou même encore, toujours sous le sigle donc de l'ADAPEI, association en danger, asphyxie des professionnels, établissement insalubre. Voilà, vous avez tout compris. Donc il y avait 200 manifestants et manifestantes vers la préfecture. L'hôtel du département qui tient les cordons de la bourse, donc qui est le financeur, pour dénoncer les conditions de travail, le gel des embauches, les non-remplacements et le coût du nouveau siège social, le train de vie professionnels des dirigeants, enfin bref, il y avait tout un placard, exige également donc les manifestants et les grévistes de toucher la prime Ségur, c'est-à-dire 183 euros mensuels, la prime Macron à 1000 euros. La manifestation a continué en direction de l'ARS et le siège de l'ADPI de Lyon, ou de l'Ain d'ailleurs, parce que ça se passait un peu partout. Je pense que c'était une manifestation au niveau national. Pour l'Ain, pour le département de l'Ain, c'est 1340 personnes qui sont employées à l'ADPI. Et puis, allez, une petite pour la route, à Ruitz, dans le Pas-de-Calais, ben, c'est Flo Europe. C'était une grève chez ce fabricant de gobelets. C'était le 9 juillet, pour les salaires à augmenter, les négociations ne donnaient aucun espoir à cette date. Au Mans maintenant, c'est dans la Sarthe évidemment, avec Géodis, BM, alors BM je crois que c'est Bourget-Montreuil, Normandie, grève du 5 juillet chez le transporteur. Ici aussi ça concerne les salaires, grève commencée à 4h30 du matin pour la trentaine de courageux et de courageuses pour une première et la réintégration de primes, également les conditions de travail, la prime Covid également, et la direction se repose évidemment sur le mois de septembre pour régler le problème selon la CFDT. Et cette fois, pour terminer donc cette seconde page, eh bien, c'est à Beaune dans le 21, la Côte d'Or, et c'est chez Aldi, hein, l'enseigne épicière. Et c'était le 8 juillet, après appel de l'intersyndicale pour alignement des salaires et rémunérations pour tous et toutes, pour tous les salariés et toutes les salariées Aldi en France, basé sur les grilles les plus hautes. Disparité selon les régions, c'était signalé ça, plus de 300 euros d'écart parfois d'une région à une autre. Voilà pour mon petit travail de ce soir.
Et ben comme quoi, il s'est passé quand même pas mal de choses cet été une soi-disant trêve estivale. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Beaucoup de gens ne partent pas en vacances, que la misère à l'exploitation continue et qu'en corollaire à tout ça, même si les médias préfèrent focaliser sur la météo que sur les luttes sociales, et ben, ça bouge dans les boîtes et ici et ailleurs. Et heureusement, Daniel, que tu es là pour nous en faire l'écho tous les mercredis dans
cette émission. Je suis qu'un modeste.
Peut-être.
Un modeste militant de l'UCL, animateur d'une petite radio,
maillon
d'une
de la
petite
chaîne,
émission,
tout aussi
une petite rubrique.
peut-être, mais tout ça a son importance de le faire savoir, d'autant plus pour ceux qui luttent. Pour terminer cette émission, deux autres petites brèves sur le front de la bêtise, sous différentes formes, et de la haine. Tout d'abord, du côté des violences d'extrême droite. Du côté des violences d'extrême droite, on voulait signaler que, alors que certaines des composantes de la mouvance d'extrême droite essaient plus ou moins habilement de se camoufler cyniquement en défenseur de la liberté, on en a parlé en début d'émission, au cours des manifestations contre le pass sanitaire, dans les faits, la réalité de l'extrême droite, elle se traduit depuis toujours par la violence gratuite, et notamment contre les militants, militantes et structures qui défendent sur le terrain le droit de toutes et tous. Et c'est ce qui s'est passé encore au milieu du mois d'août, puisque dans la nuit du 13 au 14 août dernier, c'est les locaux nationaux, donc à Paris, de l'Union syndicale solidaire, qui ont été la cible de l'extrême droite. Alors, la nature des dégradations, elle a été celle de croix celtiques et de messages haineux à base de race blanche qui ont laissé aucun doute sur les orientations politiques de leurs auteurs, et qui font que on tenait à le signaler, montrer ce nouveau méfait de l'extrême droite et signaler notre soutien sans réserve à nos camarades syndicalistes de Solidaires. Alors, si en effet les dégradations qu'on vient d'évoquer, elles restent minimes, il faut quand même rappeler qu'elles s'inscrivent dans une liste déjà bien trop longue des attaques des groupuscules fascistes cette année contre les espaces de lutte et d'organisation du mouvement social, contre des organisations comme la nôtre. On est bien placé pour le savoir à Lyon avec la plume noire, et que c'est pour ça que la solidarité doit être sans faille dans ces cas-là. Nous le répéterons jamais assez, les événements qui s'enchaînent et le climat de plus en plus délétère qui est accéléré par un gouvernement lancé dans une politique toujours plus antisociale et autoritaire, nous promettent un avenir de plus en plus sombre s'il n'y a aucune réaction de notre camp social qui se fait entendre et si on n'est pas capable d'être solidaire et de s'opposer collectivement à ces exactions de l'extrême droite. Voilà, ça c'était sur le front des violences d'extrême droite et de la bêtise fasciste. Autre petite brève pour terminer, cette fois-ci sur le front des violences faites aux femmes. On voulait signaler aussi que cet été, un colonel de gendarmerie avait été nommé en kanaki en dépit d'un passé de violence conjugale, et qu'on voulait souligner ce déni encore inacceptable pour le droit des femmes. C'est une enquête de Mediapart qui a révélé le mercredi 18 août dernier que un colonel de gendarmerie de Kanaki qui avait été nommé en mai 2021 avait été condamné pourtant pour violence conjugale en 2018, que lors de son procès en appel en mai 2021, où sa peine de prison avec sursis avait été commuée en amende, il avait reconnu les faits de violence et de sa responsabilité. Pourtant, ça n'a pas gêné qu'il soit nommé après sa condamnation en première instance. C'est une réalité qui malheureusement n'est pas nouvelle.
Une promotion, quoi.
Voilà, une promotion, on va dire, sur le dos des femmes. Une réalité qui n'est pas nouvelle, parce qu'il faut savoir que près de 10% des appels qui ont été passés, qui sont passés au 3919, qui est, on le rappellera, le numéro d'urgence pour les violences conjugales, le sont par des conjointes et ex-conjointes de policiers. Comme quoi, il y a quand même une certaine impunité de ce côté-là, et que la décision de nommer un commandant de gendarmerie qui est quand même le plus haut gradé qui existe en Kanaki dénote d'un mépris de la question des violences qui sont faites aux femmes. Pourtant, on croit qu'il s'agissait d'une soi-disant cause du quinquennat du gouvernement, et on peut, pour terminer, légitimement se demander est-ce ainsi que l'État compte renforcer la confiance dans le dépôt de plaintes, et est-ce ainsi qu'il compte combattre les féminicides. Je crois qu'on peut largement en douter, et que la lutte contre les féminicides passera par une lutte aussi plus générale contre le patriarcat et prendra d'autres formes. C'est ce triste constat, une fois de plus, que cette petite brève nous permet de relever une fois de plus. Voilà, c'est sur ces deux brèves qu'on souhaitait terminer cette émission de reprise d'Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire, l'UCL. On se donne rendez-vous tous les mercredis de 20h à 21h. C'est reparti pour une saison sur 102.2 de Radio Canu. Et puis moi, je vous retrouve directement aussi après notre générique. Absolument. Pour la reprise de la bande-son de nos révoltes, aussi qui fait sa rentrée ce soir.
Et puis la rentrée de la Plume Noire, évidemment, qui ouvre en grand ses portes, comme je le disais tout à l'heure, si on peut le dire maintenant qu'on peut ouvrir nos portes en grand. Et ça sera mercredi prochain, donc
à partir de 17h, 17h-19h le mercredi, et de 15h à 19h le samedi. N'hésitez pas à venir rencontrer les militantes et militants de l'UCL.
Avec d'excellents ouvrages dans nos étagères.
Voilà. Allez, la
dans
semaine prochaine.
Dans quelle étagère ? Bon, eh ben, on va repasser le générique de fin, qui est toujours celui du début, et ensuite laisser l'émission suivante.
La bande-son de nos révoltes.
La bande-son de nos révoltes. C'est une coutume à Radio Canu, c'est d'annoncer l'émission, mais je ne me rappelais plus du titre.
Bon. Et à la semaine prochaine pour Idées Noires.
Allez, salut.
Salut.